Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Niveau Supérieur. Aujourd'hui, on va parler de Tales of Vesperia. Et j'ai réussi à faire un lancement. Et ouais, ça c'est beau, ça fait plaisir. Tales of Vesperia, c'est un jeu sorti en 2008 sur Xbox 360. Après, il est sorti un an plus tard sur PS3. Et ce Tales of Vesperia, c'est le 10e épisode de la série Tales of, qui est du coup une série de JRPG qui a commencé en 95 sur la Super Nintendo, avec Tales of Phantasia, qui était déjà à l'époque assez révolutionnaire parce que les Tales of ont la particularité d'avoir un système de combat qui n'est pas au tour par tour comme Dragon Quest qu'on a vu la dernière fois, mais en temps réel. C'est-à-dire que du coup, vous appuyez sur les boutons, genre bouton A, ça fait un coup d'épée, et bouton B, ça fait de la magie, et bouton X, vous sautez par exemple. Du coup, ça en fait, si on veut rentrer dans un sous-genre du sous-genre qui est le JRPG, un action RPG. Alors, je pourrais dire action RPG, mais quand je dis action, comme ça fait mal à la gorge, ça fait mal aux oreilles, c'est pas agréable. Du coup, action RPG, désolé pour la petite pédanterie anglaise. Hein. Donc c'est un JRPG et une série de JRPG qui est basée sur un système de combat assez original par rapport à l'image un peu carte postale qu'on se fait du JRPG qui est censément au tour par tour, comme Dragon Quest, qui a inventé ce genre, on l'a déjà dit, et qui a gardé ce système de combat au tour par tour. Après, j'espère qu'on le verra au fur et à mesure de nos aventures vidéoludiques, mais il y a plein de systèmes de combat différents dans les JRPG, évidemment. Et donc c'est ça, c'est la série Tales of, qui existe depuis 95, mais qui est arrivée chez nous en Occident, en Europe, pour être précis, en 2004 ou 2005, sur GameCube avec Tales of Symphonia. Du coup, c'est assez récent chez nous, comme série, finalement, même si c'est vieux au Japon. Et on va pas se mentir, c'est une série dans le monde du JRPG, dans cet univers incroyable, qui est un peu en retrait, c'est une série B. Pour vous donner un ordre d'idée, cette série, Tales of, à l'heure d'aujourd'hui, elle a 15 épisodes principaux et une quinzaine de spin-off, et 4 animés, et je ne sais pas combien de mangas, et sûrement des mugs, et aussi des pins. Et avec tout ça, elle a en 2019, si j'ai les bons chiffres, vendu en tout 23 millions de jeux. Alors que Dragon Quest, je sais que je parle beaucoup de Dragon Quest, mais en même temps c'est le seul jeu qu'on a fait pour l'instant, donc laissez-moi tranquille. La série Dragon Quest, du coup, si j'ai bien compté aussi, elle a environ, à l'heure actuelle, plus de 50 millions de ventes. Du coup, il y a beaucoup plus de jeux dans la série Tales of en 10 ans de moins que la série Dragon Quest, et pourtant Dragon Quest en a vendu deux fois plus. Ouais, ça fait beaucoup de chiffres d'un coup, mais si vous calculez, vous prenez une feuille et que vous faites attention à la retenue, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est pas la même cour, quoi. C'est une série un peu en retrait. Ce serait un peu comme comparer Patrick Sébastien et Bruno Guillon, par exemple.
On a la propension à 6 ans à pouvoir rire à n'importe quoi, regardez-les, je vais leur dire un mot. Et surtout, ouais. Manu va pleurer derrière, regardez bien, regardez. Porte.
Voilà, c'est un exemple. Mais peu importe, hein, c'est juste pour vous situer le truc, c'est pas grave, Tales of. Faut pas avoir honte, chaque chose en son temps, chacun à son rythme. D'autant plus que la série Tales of, quand elle a été créée par le studio Wolf Team en 95, elle a donné lieu à d'autres séries de JRPG, sans le vouloir, parce qu'en fait, les gens qui ont créé Tales of Phantasia n'étaient pas contents. Après l'éditeur qui était Namco, si je ne me trompe pas. En gros, eux, ils voulaient que ça s'appelle Tales Phantasia et pas Tales of Phantasia, parce qu'apparemment, ils voulaient que leur titre soit faux grammaticalement. Il y a eu sûrement d'autres différents artistiques, hein, j'en doute pas, pas qu'une histoire de syntaxe. Et suite à ce différent artistique, la plupart des gens de Wolf Team sont partis et ont fondé le studio Treehace, qui plus tard développera des séries de JRPG qui sont pareil, un peu en retrait, mais assez cultes pour les connaisseurs, Star Ocean, Star Ocean, et Valkyrie Profile. J'ai joué à aucun des deux, donc ça sera l'occasion peut-être de les découvrir, parce que les concepteurs originaux de Tales of ont ensuite fait leur propre série, qui ont sûrement un peu repris les idées, j'imagine, qu'ils avaient au départ, donc ça pourrait être stylé d'en faire un jour ou l'autre. Voilà. Du coup, Tales of Vesperia, c'est sorti en 2008 et en 2009. La version PS3, elle a plus de choses que la version 360, des personnages en plus, des quêtes en plus. Et en 2018... Oh putain, pourquoi moi je fais des notes qui durent 4 pages. 4 pages de notes, et je les regarde pas, parce que je suis un connard. Du coup, je clique. Et le Definitive Edition de Tales of Vesperia est sorti en 2019 sur toutes les grosses plateformes à peu près. Et c'est une sorte de lissage de la version PS3 qui avait déjà du contenu en plus. Donc ils n'ont rien rajouté, ils ont juste lissé pour pas que ce soit trop moche. Voilà, donc moi j'ai joué à Tales of Vesperia Definitive Edition sur Switch, parce qu'il était en promo grave pas cher. Mon expérience avec les Tales of, elle se résume à Tales of Symphonia, justement, sur GameCube. Bien sûr, je vous rassure, attention, je ne l'ai pas fini. Mais j'y ai joué pas mal de fois. Je l'avais sur GameCube, je sais plus trop comment, je l'avais pas fini. Je l'ai racheté sur PC, parce qu'ils ont fait une version remasterisée aussi, un peu comme celle-ci. Bien sûr, je ne l'ai pas fini non plus. Et voilà. Du coup, je connaissais un peu de loin vite fait, ça m'attirait pas plus que ça, même si je savais que Tales of Symphonia avait une sorte de statut un peu culte et classique, que maintenant je comprends, après mes recherches, parce que bah, c'est le premier qu'on a eu en fait. Du coup, bah logique. Pour nous, il est culte parce que c'est le premier qu'on a eu et parce qu'il est sorti sur GameCube et que la GameCube, il n'y avait pas non plus grand chose à se mettre sous la dent en JRPG. On va pas se mentir, on va pas se tirer les yeux à quatre épingles entre sourds. Hein, bon. Et justement, c'est la team de développement qui a fait Tales of Symphonia et aussi Tales of the Abyss, sorti sur PS2 après Symphonia, qui est à l'origine de Tales of Vesperia. Du coup, on se retrouve avec un épisode d'une série B, mais un épisode très aimé, très apprécié, fait par une des meilleures équipes, a priori, si on suit l'opinion populaire, qui ait pu travailler sur la série. Épisode qui sort d'abord en 2008, un contexte un peu particulier pour le JRPG et le jeu vidéo japonais. J'y reviendrai sûrement à un moment donné, parce que je parle plus que de raison. Et on se retrouve aussi avec une version remasterisée qui sort en 2019, à un moment où, si je ne me trompe pas, Dragon Quest XI est déjà sorti, puisque pour l'instant, c'est notre seule et unique référence. Du coup, est-ce que, à l'origine, il était bien dans son temps, dans son époque, qu'est-ce qu'il apportait au genre? Et est-ce que maintenant, ça vaut aussi le coup de l'avoir ressorti ou pas? Voilà. Spoiler, ouais, est-ce que c'est bien? Bah ouais, ça passe, c'est cool. Voilà, merci à tous d'avoir écouté. Allez, salut. Je plaisante, bien sûr, trêve de facétie. Faire le topo sur l'univers et sur l'histoire rapidement, on est dans un univers un peu fantasy, hein, pour changer, avec un postulat de départ qui est que les gens vivent dans des villes qui sont protégées par des Blastia. Alors c'est pas la ville en Corse, attention. Les Blastia, c'est des sortes de cristaux qui sont des condensés de l'énergie magique qui s'appelle l'air, qu'il y a dans l'air, attention à ne pas confondre. Et qui du coup, une fois qu'on a canalisé cette énergie pour en faire des cristaux, on peut mettre des formules, on peut un peu encoder les cristaux comme si c'était des trucs programmables et leur faire différentes choses. Augmenter les capacités du corps et faire de la magie. La magie que les personnages ont, c'est grâce à des body blastia qu'ils ont sur leurs équipements. Et les villes aussi sont protégées par des blastia qui créent des barrières qui permettent aux villes et aux villageois et aux citadins, et aux riverains, tout simplement aux riverains, de vivre sereinement, tranquillement, une petite vie pépère, parce que les barrières qui protègent les villes empêchent les attaques de monstres. Là, on pense bien sûr à l'attaque des titans, mais c'était avant, si je ne me trompe pas, donc c'est plutôt l'attaque des titans qui a pensé à Tales of Vesperia. Et voilà, ça c'est l'univers de départ, c'est ça. Le problème, bien sûr, bah, c'est que les gens dépendent trop de la technologie et des blastia. Et on en a une preuve directement parce que le début de l'histoire, c'est qu'on retrouve le héros qui s'appelle Yuri Lowell, qui est une sorte de mercenaire un peu enhardi, hein, Yuri Lowell enhardi. Et il est assez différent des personnages habituels de JRPG parce qu'il est plus vieux et parce qu'il est bah, justement un peu plus flegmatique, un peu plus composé, on va dire. Non, ça se dit pas composé, c'est un anglicisme, c'est pas une salade, il est un peu plus... Je sais pas moi, calme quoi, chill, tranquille, il a vécu. Alors un adulte pour un JRPG, c'est il a 20 ans quoi. Mais normalement ils en ont 12, donc il est plus vieux. Et cet homme du coup, Yuri, il se lance dans une aventure incroyable parce que il est dans un quartier populaire. je fais une petite annonce immobilière, mais il est dans un quartier pauvre de la capitale de l'Empire qui s'appelle Zafias. Et dans ce quartier pauvre, la Blastia qui permet de réguler l'eau a été volée. Et du coup c'est terrible, ces pauvres gens qui n'ont rien. Non, en plus de Blastia. Du coup, Yuri se lance à l'aventure pour récupérer cette Blastia et trouver qu'il l'a volée. Et bien sûr, après, bon, bah voilà, les manigances, les péripéties, et à la fin, on tue Dieu, comme d'hab. C'est un univers sympa, parce que moi j'aime bien la science-fantasy, mais les mauvaises langues diront, ouais, ils ont réinventé les matérias. Alors, ceux qui connaissent pas les Materia, c'est un truc de FF7, du coup, un truc assez populaire, assez connu. Et c'est vrai que ces petits cristaux qui font de la magie, ça ressemble un peu aux Materia. Mais c'est pas grave, ça reste un univers sympathique.
C'est un univers, je trouve, vachement empreint d'une petite touche un peu corse, parce que les Blastia, c'est des cristaux. Et je pense que cristaux, c'est peut-être un nom corse, un peu leur version de Christophe. Mais encore une fois, confondez pas Blastia et Bastia. Mais juste, moi, je trouve que Blastia, Christo, on entend un peu le « Hey, Christo, où tu mets la Blastia, là ? Je ne comprends pas. » Je ne sais pas quel est l'accent corse, bien sûr. Mais bon, je voulais juste partager ça avec vous. En tout cas, c'est un univers qui est suffisamment étoffé pour mettre en avant ce qui compte vraiment dans le jeu, qui sont les personnages qui sont de base assez clichés à première vue, mais qui ont très vite beaucoup plus d'épaisseur que prévu. Yori, c'est pas juste un mercenaire badass. Estelle, c'est pas juste une princesse qu'on doit sauver et qui connaît rien à la vie. Carol, c'est pas juste un héros de shonen basique, lui pour le coup, qui est un enfant et qui doit apprendre à être un aventurier. Tous et toutes, ils sont pas particulièrement originaux, mais en fait, ils sont écrits. Dans les Tales of, il y a un système de jeu qui est propre à la série, qui est celui des skits, des scénettes. Il faut imaginer des dialogues optionnels qu'on peut déclencher ou non et qui ont lieu entre des avatars 2D des personnages qui se parlent avec des dialogues doublés. Et ces skits, il y en a beaucoup et ils rajoutent vraiment de l'épaisseur aux personnages, aux événements. Parce que dès qu'il se passe un truc, ils réagissent, ils en parlent. Il y a aussi beaucoup de skits qui sont un peu inutiles mais qui parlent de leur vie pendant le voyage ou de leurs petites habitudes et qui du coup les distinguent, leur donnent des caractéristiques propres. Tout ce qui manquait cruellement à Dragon Quest 11 en fait. Là vraiment les personnages, ils sont hyper attachants parce qu'ils sont développés, fouillés. Et ils sont du coup vachement plus réalistes et crédibles. Donc ouais, ça c'est vraiment la force de Tales of Vesperia, c'est les personnages. La force de ce jeu c'est aussi son rythme. Ça va vite, il n'y a pas d'exposition trop longue au début comme ça peut être le cas dans les JRPG. On amène les informations petit à petit. Les personnages qu'on rencontre au fur et à mesure de l'aventure sont tous dans des factions différentes et du coup rajoutent une épaisseur au monde. On comprend qu'il y a telle entité, puis telle autre et on comprend les liens ensuite. Du coup le rythme est effréné, on apprend toujours des choses et c'est jamais lourd. Du coup c'est super. L'histoire après en elle-même, elle est rythmée, il y a des bons personnages, mais elle est pas ouf. Surtout parce que, en fait, au début, dans le premier acte, dans la première partie du jeu, les 20 premières heures, en gros, ça traite de sujets assez intéressants concernant la justice. En gros, Yuri, il a un ami d'enfance, Flynn, qui est chevalier de l'Empire, alors que Yuri, il était chevalier, mais il est parti. Et Flynn, c'est un peu une sorte de réformiste qui pense qu'il peut changer le système de l'intérieur, alors que Yuri, il a des méthodes beaucoup plus radicales pour faire justice, et du coup il y a une opposition entre les deux, et c'est un débat moral et politique assez intéressant de savoir comment faire la justice, est-ce qu'on doit essayer de changer le système ou le refuser, s'en éloigner. Et c'est un débat intéressant, j'ai pas l'impression d'avoir vu souvent dans les quelques JRPG que j'ai joué sans les finir, qui est abandonné au bout d'un moment pour un truc vachement plus grandiloquent et classique dans les JRPG, qui va concerner l'écologie en général, et à la fin, je vous ai dit, on tue Dieu, donc voilà, on sauve le monde. Et ces questions-là, qui sont posées au départ, elles sont oubliées. Les conséquences sont même pas vraiment très bien traitées, je trouve. Et c'est assez frustrant dans un jeu qui gère aussi bien ses personnages, d'avoir une histoire qui commence bien, qui pose des questions, qui après les oublie. Et du coup, maltraite un peu ses personnages en le faisant, parce que du coup, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, n'a pas de conséquences. Donc c'est un peu frustrant, mais il y a du truc bien à sauver là-dedans. Et en fait, j'écoutais un podcast qui parlait de ça pour je ne sais plus quoi. Le podcast en question, c'est Abnormal Mapping. Et Yel disait, à juste titre d'ailleurs, que les JRPG, ils pouvaient parfois parler de problèmes sociaux, politiques, genre de classe, etc. Mais c'était quand même fait par des gens au Japon qui avaient souvent des positions privilégiées. Si on a un point de vue très matérialiste sur comment un jeu vidéo est produit, c'est peut-être pas là qu'on va trouver les critiques politiques les plus sensé ou radical, puisque ce sont des produits faits par des gens qui voulaient un système capitaliste et qui en font partie, et qui sont souvent bénéficiaires. Du coup, bah ouais, c'est pas là qu'on va nous inviter à faire le grand soir. Ou alors, on va le faire au début, et après, on va finir par un message vachement plus cliché et digérable, qui choquera moins et qui remettra rien en question. C'est comme il y a quelques mois, tout le monde s'était emballé, parce que Jean-Pierre Pernaut, quand il était encore au journal de 13h, il s'était un peu énervé sur je ne sais plus quelle loi ou quel truc un peu con en disant que c'était con justement. Et j'entends, ouais, Jean-Pierre Pernaut, il balance. Ça va les gars, c'est Jean-Pierre Pernaut. Hein.
Mesdames et messieurs, bonjour.
Il va jamais vous inciter à vous révolter. À part si tous les petits artisans de je ne sais pas quel bled arrêtent de faire des centons. Là peut-être qu'il trouvera ça révoltant. Mais sinon, c'est pas lui qui va critiquer le grand capital ni le gouvernement. Bon bah voilà, les JRPG, ils ont un peu la même valeur politique que Jean-Pierre Pernaut. En tout cas en ce qui concerne les problèmes de classe. Ou politique en général. Et bon, c'est peut-être pas là qu'il faut les chercher, les les pensées provocantes. Mais vu que ça commence, en fait, au début du jeu, bah, on aimerait bien que ça continue, quoi. Mais bon, bah, c'est pas le cas, apparemment. Tant pis. Mais c'est frustrant quand même, parce que même tout au long du jeu, il y a des intérêts divergents au sein du groupe de personnages, parce qu'ils traitent bien leurs personnages, parce que du coup, forcément, ils n'ont pas tous les mêmes intérêts, les mêmes buts. Et ça, c'est cool aussi, ça fait envie, on se dit, ok, bah, ils vont dans les trucs et tout, et à la fin, non, quoi. Et c'est hyper intéressant d'avoir un groupe de personnages aux intérêts divergents, parce que ça casse un peu ce mythe qu'on a dans beaucoup de JRPG que Dragon Quest reprend, où tout le monde d'un coup magiquement est uni parce qu'il y a un truc à faire. Ça peut se comprendre, mais ça se fait trop facilement souvent, parce que c'est nécessaire pour le gameplay que bah, vous ayez tant de personnages et qu'ils fassent pas des allers-retours tout le temps pour partir. Bah très vite ils sont copains comme cochons et soudés jusqu'à la mort. Bah non, parfois ils peuvent s'engueuler, et là c'est le cas et c'est cool. Et puis j'avoue, il y a un plot twist qui a fait pas mal mouche chez moi quand un des personnages, pour le dire sans spoiler, qu'on suit depuis longtemps, s'avère avoir fait des cachotteries, on va dire. Bah je l'avais pas vu venir et c'était bien. Après, tout n'est pas parfait, hein, vous l'aurez compris. Il y a des personnages rajoutés dans l'édition PS3 qui du coup sont un peu, bah justement, rajoutés à l'intrigue et aux interactions avec les autres, et du coup ça se sent, c'est un peu artificiel, donc c'est dommage. Et puis il y a beaucoup d'événements secondaires qui sont accessibles via des quêtes annexes que j'ai pas pu faire parce que les quêtes annexes elles sont inaccessibles. Faut aller à tel endroit, à tel moment, sinon c'est mort. Et ça, c'est une question que je vais vous poser et à laquelle j'ai pas encore de réponse. Pourquoi tous les putains de JRPG, ils sont forcément obligés d'être obscurs? Pourquoi il y a des secrets, des trucs introuvables que tu peux connaître qu'à travers des guides seulement? Genre, tu vas pas acheter ton putain de guide chez le marchand de journaux en 95 ou si tu tapes pas sur Google comment avoir la meilleure arme du jeu, tu peux pas savoir. Et ça, je sais pas pourquoi il y a cette envie d'obscurcir les choses dans les JRPG. J'espère que j'aurai une réponse, parce que c'est un truc qui se retrouve dans beaucoup de jeux et qui est fastidieux, qui est tout simplement fastidieux. Voilà, je le dis. Et du coup, tous ces quêtes annexes, bah, le jeu est hyper généreux. C'est super, il y a plein de quêtes annexes, c'est cool, mais ouais, bah, laissez-nous les faire, quoi. Dites-nous.
C'est comme si un pote te disait, gros, je t'ai acheté 10 cadeaux, par contre, ils sont dans 10 points relais différents dans toute la ville, et si tu vas pas les chercher tous dans une heure, ils repartent à l'expéditeur et tu les as plus. Donc ouais, le gars est généreux, mais il est chiant aussi, quoi.
Là, le jeu accuse un peu son âge parce qu'il manque un tracker de quêtes. Chose qu'il y a dans Dragon Quest 11, qui a beau être classique, a quand même 25 ans d'amélioration dans le bide et qui du coup a amélioré un peu la qualité de vie et l'expérience qu'on a quand on y joue, quoi. Donc ouais, ça c'est mieux. Après bon voilà, je fais le malin, il y a un animé qui est une sorte de préquel à Tales of Vesperia, je l'ai regardé, donc c'est que l'histoire est pas si mauvaise. Vu que j'aime bien les personnages, que le monde était pas inintéressant, je me suis quand même tapé 1h30 de film animé qui était sympathique, hein. Mais bon, là, je suis malin à chipoter alors que oui, bah, j'ai regardé l'animé comme un abruti et c'était bien. Donc pas non plus trop me la ramener. Ce rythme, qui est une des forces de Tales of Vesperia, je l'ai dit, il se retrouve aussi dans la façon dont le gameplay est amené. Il y a plein de petites couches et des couches et des couches, comme dans un oignon, ou sur un bébé, comme vous préférez, qui se rajoutent petit à petit. Et c'est pas trop rapide, c'est pas trop lent. On est toujours en train d'appréhender un nouveau système de gameplay, et ça c'est super. C'est vraiment, le rythme, il est bien à tous les niveaux. Et en plus, il y a un petit détail que j'aime bien, c'est que les tutoriels, ils sont dans la diégèse du jeu. Ça veut dire qu'en gros, personne te dit appuie sur carré, alors que bah gros, tu sais pas ce que c'est la touche carré, t'es un personnage. Là, c'est des personnages qui sont dans l'univers, qui vous expliquent les choses en avec les termes qui sont dans le jeu, et du coup, ça reste dans la diégèse, dans l'univers, dans l'histoire. Ça sort pas de l'histoire, donc ça nous sort pas de l'histoire. Et ça, bah, j'aime bien qu'ils aient pris la DTR de faire ça. Ça fait plaisir. C'est un petit détail agréable que moi j'apprécie toujours. L'inconvénient avec ce système de couches de gameplay qui se rajoute, c'est qu'au début, t'as pas grand chose à faire. Tu t'ennuies un peu, c'est un peu basique. Et c'est seulement au bout de 15, 20, 25 heures que t'as toutes les options enfin en main et que là tu comprends tout ce que tu peux faire et que c'est stylé. Du coup le rythme avant tout, c'est ça qui compte. Et ça passe aussi, ce rythme effréné et super agréable, par des donjons qui sont un peu vides et un peu fauchés on va dire. Je pense que ça a à voir avec le fait que le jeu il soit fait en 2008. C'était le premier Tales of fait sur une console HD, la Xbox 360 du coup. Et c'est vrai qu'à l'époque je me souviens très bien des discours qu'il y avait sur le jeu vidéo. On disait que le jeu vidéo japonais était un peu mort parce qu'ils n'arrivaient pas trop à passer à la HD justement. Ils étaient habitués au PS2, GameCube, etc. Ils maîtrisaient bien. Mais techniquement, ils se disaient qu'ils n'arrivaient pas à gérer les outils de la nouvelle génération de consoles PS3, Xbox 360. Notamment parce qu'ils avaient des équipes plus réduites que les studios occidentaux à l'époque qui commençaient à devenir des grosses machines de guerre. C'est les PS3, c'est la génération qui a vu Uncharted, Last of Us et tout. Uncharted, c'est genre 2008-2009. Du coup, c'est le début du jeu vidéo moderne, un peu pareil pour Gears of War sur 360. Du coup, il y a beaucoup d'argent qui commence à rentrer. Les studios Jap étaient peut-être un peu plus modestes, ou en tout cas habitués à une façon de travailler un peu plus artisanale. Et aussi, les studios japonais, ils avaient l'habitude de faire des moteurs maison. Donc du coup, de créer des interfaces et des outils de création de jeux propres pour chaque jeu. Alors que c'était beaucoup plus standardisé en Occident, aux États-Unis, etc., avec l'Unreal Engine, en fait. C'était facile pour les Occidentaux d'enchaîner les jeux et d'aller vite et d'avoir des outils qui fonctionnaient bien parce qu'ils avaient tous le même moteur et qu'ils pouvaient se parler entre eux, alors que les studios japonais avaient chacun leur moteur et du coup, ils ne pouvaient pas trop communiquer ou s'échanger des infos parce que Square Enix allait avoir tel moteur pour ce FF alors que Bandai Namco allait avoir tel moteur pour ce Tales of. Donc c'est pour ça, je pense qu'à l'époque, par exemple, les podcasts que j'écoutais jadis, on parlait souvent de la mort du jeu vidéo japonais ou du fait que le jeu vidéo japonais galérait un peu, n'arrivait pas à se réinventer ou à gérer comme il fallait ces nouvelles consoles. Ce qui est discutable, parce que si on regarde les jeux qui sont sortis, il y a beaucoup de bons jeux qui sont sortis à cette époque-là, venus du Japon. Du coup, avec le recul, ça semble un peu bizarre, en fait. Mais sur le coup, c'était la tendance, et c'est comme ça qu'on expliquait les soi-disant problèmes de certains jeux japonais. Avec même des créateurs japonais qui disaient, eux aussi, le jeu vidéo japonais est mort. Je sais plus quel gars de Capcom avait dit ça, j'aurais pu vérifier, mais j'ai la flemme. Mais du coup, ouais, c'était une tendance de l'époque, dans l'historiographie, on va dire, dans la façon de raconter l'histoire de jeux vidéo, qui se dessine et qui maintenant pourrait peut-être être mise en question. Mais ce côté-là, un peu fauché, du coup, moi je trouve qu'il passe bien, parce que du coup, les donjons, bah, ils sont assez vides, assez épurés, et du coup, il y a vraiment le strict minimum, et tant mieux quelque part, parce que les donjons un peu trop longs, un peu trop chiants, c'est relou, quoi. Pour un donjon de JRPG, il faut surtout deux ou trois chemins, et tu ne sais pas lequel est le bon, mais tu veux pas aller dans le bon chemin tout de suite pour pouvoir aller trouver les deux autres chemins où il y a des coffres à la fin. C'est trop bien, c'est un peu con, mais c'est trop un grand plaisir des JRPG, le petit côté un peu objet caché, genre, ok, faut pas que je trouve la bonne solution et que je continue trop vite l'histoire, faut que je puisse explorer un peu pour trouver le chemin qui est une impasse mais où il y aura un coffre. C'est un plaisir très bête et très primaire mais qui est très très présent dans les JRPG. Moi un truc qui me parle beaucoup, peut-être que je devrais jouer à des jeux d'objets cachés sur téléphone, je sais pas, mais en tout cas c'est trop bien. Il y a aussi dans les donjons des tentatives pour les rendre un peu plus différents et parfois des mécaniques de gameplay qui se rajoutent parce qu'en gros dans les Tales of on a souvent l'anneau du sorcier, je sais pas si c'est ça en français, mais en gros une sorte d'anneau qui lance des boules magiques qui peuvent du coup interagir avec les mécanismes du donjon. Du coup il y a des quelques puzzles qui sont là, qui sont pas trop difficiles, qui sont sympas. J'ai essayé de pas regarder les solutions parce que je vous ai dit moi j'aime pas les énigmes, j'aime pas les puzzles, mais j'ai essayé de faire un effort et de me débrouiller, de réfléchir, et ça a été la plupart du temps, j'ai bien réussi, j'ai dû regarder une ou deux fois seulement, et en fait je savais ce qu'il fallait faire, je n'avais pas compris comment fallait le faire, donc j'ai été sage. Je me suis pas trop aidé d'un guide et j'ai pas tout fait avec un guide. J'ai essayé de réfléchir et c'était pas trop désagréable. Donc attention, peut-être que je vais aimer les puzzles de plus en plus. Qui sait ? Je dis que j'ai été sage au niveau des guides, etc. Mais il y a un truc que j'ai fait et qui est pas réglo. En fait, dans la version Definitive Edition, vous avez tous les DLC intégrés directement à votre jeu, qui sont gratuits. Dans ces DLC, il y a des packs, genre pour avoir plein d'objets de craft. Je reviendrai sur le craft un peu tout à l'heure. Pour avoir des costumes en plus. Et il y a des packs qui permettent de gagner des niveaux. Genre 5 niveaux d'un coup. 10 niveaux d'un coup. Au début, tu vois ça, tu dis, bon, attendez, oh, oh, on est où là? On va pas faire ça. Et après, tu penses, tu joues, parfois tu y repenses un peu. Et tu y repenses encore plus fort quand il y a un boss que t'arrives pas à battre et que t'as un peu la flemme d'aller grinder. Grinder, ça veut dire, et ça, je sais pas si je l'ai expliqué, mais grinder, farmer, comme vous voulez, c'est quand vous devez faire plein de combats à la suite pour devenir plus fort et gagner en expérience et que vos personnages soient de meilleur niveau ou qu'ils passent au niveau supérieur pour ensuite battre le boss parce que vous aurez des meilleures stats. Et parfois c'est long et c'est répétitif et ça prend du temps. Et du coup, parfois on se dit « Ah, dans mon inventaire, il y a un truc qui me permet de gagner 5 niveaux d'un coup. Ce serait pas mal ça, m'éviterait peut-être de perdre une heure de ma vie. » Du coup, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait deux fois. Et bon bah voilà, j'ai battu les boss qui me posaient problème. Mais en fait, j'étais pas satisfait. Et oui, le grind, le grinding, le farming, je dis les mots bien clairement comme ça, j'aurais pu les réexpliquer après. Grinder, en fait, c'est très chiant, mais c'est très agréable. Il y a vraiment, il y a une satisfaction du grinding. Quand t'as passé 1h30 à enchaîner les combats, comme un con, de façon mécanique, bah une fois que ce moment dure et laborieux est passé, et que tu bats le boss ou tu bats l'obstacle qui te gênait, bah t'es super content quoi. Tu sens cette puissance en toi, tu as mérité ta victoire. Moi j'ai pas mérité ma victoire. On va reprendre le même sur Sekiro, là j'ai pas seulement triché, j'ai triché avec moi-même, j'ai triché envers le jeu, triché envers moi, j'ai pas été honnête. Et du coup, j'ai pas eu cette satisfaction du grinding bien fait. En ouvrant ce pack qui m'a fait gagner des niveaux, mes personnages, des niveaux artificiels, des niveaux qui ne voulaient rien dire. Et voilà. J'avoue ma faute devant vous, les Français. Vous pouvez me juger en conséquence. Écoutez, j'ai été faible. Voilà. J'ai l'impression d'être un homme politique qui avoue avoir accepté un pot de vin. C'est presque ça. C'est presque ça. Seulement la deuxième émission et déjà, je vous déçois. Mais bon, ouais, ça va. Hein. J'ai quand même gagné 2 heures de temps. Et qu'est-ce qu'on peut faire en 2 heures? On peut faire des podcasts. Donc soyez, hein, eh. Non, je vous prends par les sentiments parce que je me sens un peu coupable. Mais bon, c'est pas grave. Et on reviendra sûrement un jour ou l'autre sur la façon dont certains remakes de JRPG offrent des façons d'accélérer le jeu. Mais c'est pas pour aujourd'hui parce que là, il n'y a pas trop, à part ça. Mais du coup, voilà, je pense qu'il y a un truc à dire là-dessus. Pour l'instant, j'avoue ma faute, mais je pense que c'est peut-être pas une faute si on en parle un peu plus. On reverra ça plus tard. Voilà, pour l'instant, j'avoue, j'ai déconné. Ouais, les boucles de gameplay hors combat sont plutôt cool, l'exploration est sympa, les donjons sont pas trop longs comme je viens de le dire, à part à la fin évidemment où forcément c'est la fin donc ça doit être hyper labyrinthique et fastidieux, vraiment c'était fatigant. Et surtout les capacités que chaque personnage peut obtenir s'obtiennent grâce aux armes qu'ils équipent. Par exemple Yuri équipe une épée, sur l'épée il y aura la capacité vitalité qui permet d'augmenter les points de vie et la capacité garde qui permet de se protéger des coups et la capacité épée de feu qui est une attaque spéciale. Si vous utilisez suffisamment l'épée, vous allez pouvoir apprendre ces capacités et les connaître sans avoir l'arme équipée. Du coup ça implique de changer beaucoup d'armes, de chercher un peu toutes les armes qu'on peut avoir, il faut même les crafter en fait. Du coup il faut chercher les matériaux dont on a besoin pour pouvoir faire telle arme et pour avoir telle capacité. Et du coup, c'est assez agréable, en fait, on se prend à collectionner les armes et à faire attention à pas trop en rater. On va dans tous les magasins pour essayer de voir si il y a des nouvelles armes, si on peut en crafter d'autres, si on peut transformer les armes qu'on a pour en avoir des versions plus 1 ou plus 2 qui auront des nouvelles capacités. Donc ouais, ça c'est plutôt agréable, en fait, cette chasse aux armes et au craft. C'était bien fait, c'était bien cool. Évidemment, une fois que vous avez appris les skills, vous ne pouvez pas toutes les avoir d'un coup. Vous avez une sorte de nombre de points à allouer. Pour pouvoir activer ces capacités que vous avez apprises. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez 50 points. Vous pourrez du coup activer la capacité vitalité dont je parlais tout à l'heure et la capacité garde et la capacité épée de feu. Mais peut-être que du coup, vous n'aurez pas assez de points pour activer la capacité défense que vous avez déjà apprise, mais que vous ne pourrez peut-être pas activer parce que vos points sont ailleurs. Du coup, cet aspect gestion de ressources, qui est une des bases, un des leviers primaires du JRPG, hein, la gestion de ressources, que ce soit vos points de vie, vos points de mana, vos objets, ou là en l'occurrence, des points qui permettent d'activer ou non des capacités, c'est un des aspects stratégiques des jeux de rôle japonais. Toujours dans la gestion de ressources, il y a une limite au nombre d'objets que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir que 15 potions de vie, que 15 potions de mana et tout. Ce qui est, j'avais jamais vu encore, une limite aussi basse pour avoir des objets. Moi, je suis le premier à prendre 99 potions et 99 de chaque dès que je peux, comme ça je suis tranquille. Là, c'est intéressant, ça te force vraiment à gérer tes ressources, à faire attention. Tu peux pas être large et être riche en potions. Faut que tu fasses gaffe. Et c'est un peu frustrant, mais pourquoi pas, je comprends l'idée et ça me plaît, même si du coup il y a beaucoup de moments où j'ai pesté, où j'ai râlé, où j'avais pas assez de points de magie pour lancer mes sorts, et où ça m'agaçait, mais j'ai dû trouver d'autres solutions du coup, activer mes skills pour en récupérer quand je faisais des combos suffisamment grands, etc. Donc ouais, c'était bien. Oui, je parle de combos, je sais. C'est bizarre, pourquoi il y a des combos? On arrive au combat, vous inquiétez pas, hein, je sais que vous êtes des petits bagarreurs. Juste avant ça, je termine sur le gameplay hors combat. Ce système de caractéristiques liées aux armes, moi j'ai fini un ou deux JRPG dans ma vie, pas de bol, j'ai fini FF9, et dans FF9 il y a le même système. Donc ils sont allés le chercher aussi, là-bas je pense, ce système de caractéristiques liées aux armes. Donc voilà, ils ont repris les matériaux de FF7 et le système de skills qui sont liés aux armes et qu'on doit activer avec des points dans FF9. Est-ce qu'on peut les critiquer pour ça et dire qu'ils reprennent des trucs qui existent déjà? J'allais le faire, mais en même temps c'est un système qu'on voit pas souvent, qui est agréable, et puis il y a beaucoup de JRPG qui s'inspirent les uns des autres et... Et c'est souvent dans des nuances que se trouvent les originalités. Et ici, il y en a des originalités. Et justement, on y arrive parce que le système de combat des Tales of, il est pour le coup original et propre à la série. Donc, on va en parler. C'est maintenant, c'est super, c'est la bagarre. fonctionne en temps réel. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez déplacer votre bonhomme, et quand vous appuyez sur la touche A, vous mettez un coup d'épée. A et avant, un autre coup d'épée. A et arrière, un autre coup d'épée. Donc c'est vraiment une sorte de beat'em all, ce qui est hyper déstabilisant, hyper original pour un JRPG, parce qu'il y a quand même les petites transitions entre l'exploration et le combat, laisser l'écran se casse, se fige, et hop, on est dans une arène de combat, comme au tour par tour, comme dans les FF et compagnie, comme dans Dragon Quest. Mais là, par contre, il n'y a pas d'option à choisir, il y a juste des boutons, et il faut taper, et du coup avoir quelques réflexes. Franchement, au début, c'est le bordel, et c'est vraiment du button mashing, c'est-à-dire qu'on appuie sur les boutons bêtement, il n'y a pas grand-chose à faire, parce que, je vous l'ai dit, le rythme du jeu, qui est très bon, fait que les couches se rajoutent les unes après les autres. Mais du coup, bah, au départ, il n'y a pas beaucoup de couches, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de tactique, il n'y a pas de réflexion. Faut taper. On tape. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Du coup, c'est un peu chiant. En plus, c'est un peu fouillis, je trouve, parce que quand les ennemis sont à terre et qu'ils se relèvent, bah, nos attaques ne touchent pas. Du coup, il n'y a pas cette précision un peu bête et méchante du système de combat par menu de Dragon Quest, où bah, tu cliques sur attaquer, tu attaques. Là, parfois, ça tombe un peu à côté, ça passe un peu à côté, et ça peut être frustrant, même si ça reste dynamique, c'est vrai. Après, la réflexion commence à arriver, parce qu'en fait, au bout d'un moment, on se rend compte, et on nous apprend, que chaque type d'ennemi est sensible à certaines de nos attaques magiques spéciales. En gros, Yuri, par exemple, il a des attaques d'épée, et certaines attaques d'épée sont de couleur bleue, d'autres rouges, d'autres vertes, et les ennemis volants sont plus sensibles aux attaques vertes, et les ennemis de glace sont plus sensibles aux attaques bleues, je dis n'importe quoi. Et du coup, il faut enchaîner les coups spéciaux d'une certaine couleur pour que l'ennemi soit sensible et qu'à la fin, on puisse faire une super attaque qui va souvent tuer l'ennemi en un coup. Du coup, ça, c'est agréable. Ça rajoute un petit côté tactique et c'est plutôt sympa. C'est pas non plus fou. En plus, je trouve que le système de couleurs est un peu abstrait. Franchement, mettez-moi des éléments. Je retiens terre, feu, air, etc. C'est plus logique, je trouve. Là, que les oiseaux sont sensibles à la couleur rouge, ça veut rien dire. Je retiens pas, j'ai dû aller. J'arrêtais pas d'aller voir dans le menu quel type d'ennemi était sensible à quoi parce que j'arrivais pas à les retenir donc c'était super chiant. Le système de combat en fait il repose beaucoup sur ta capacité à pouvoir faire des bons combos. Parce que plus tu fais des combos, plus tu remplis ta jauge d'overlimit et après overlimit tu rentres en mode super saiyan et tu peux faire plus de coups spéciaux, voire même faire des coups ultra spéciaux qui sont super stylés et tout ça. Et moi bah, je suis nul en combo, je suis pas là pour jouer à un jeu de combat. Parfois, tu peux activer des capacités qui permettent de faire des guard cancel ou des trucs comme ça, qui sont des termes de jeu de combat, clairement, où tu peux du coup annuler une action en mettant ta garde, etc. Et moi, je suis pas là pour ça, les gars, je suis nul à ça. Donc, peut-être aussi que je suis un peu de mauvaise foi, parce que bah, je suis nul. En plus, tu peux incarner chacun des personnages de ton équipe et ils ont tous un gameplay différent. Du coup, j'ai principalement joué avec Yuri, mais j'ai aussi joué avec Rapide, je sais pas comment on dit en français, Rapide. Qui est ton chien, un chien hyper stylé, je ne l'ai même pas dit, mais c'est un chien qui fume une pipe et qui combat à la dague qu'il met dans ses dents, donc il est hyper classe. En japonais, en tout cas dans le doublage, le chien il l'appelle Rapido, parce que j'ai joué avec le doublage japonais, et du coup, en français, si on l'avait appelé Rapido, il y aurait une vision beaucoup plus glauque d'un mec qui a appelé son chien Rapido parce qu'il va trop au PMU faire des Rapido justement. Donc restons sur Rapide parce que sinon c'est pas la même ambiance quoi. Et du coup j'ai joué avec lui, j'ai aussi joué un peu avec Patty, la pirate. J'ai joué avec les personnages qui étaient rapides en fait. J'aime pas les personnages trop lents. Et chacun ont des gameplays différents. Du coup peut-être que c'est moi qui n'ai pas assez exploré toutes les possibilités qu'offrait le système de combat. Puis bah faut bien le dire hein, en fait je suis nul. Je pense que mon meilleur combo c'est 60 et quelques. J'étais grave content mais je pense que le système peut être poussé dans ses retranchements pour te permettre de faire des combos infinis et hyper longs. J'y arrive pas, j'y arrive pas, voilà, je le dis. Moi je suis là pour réfléchir, pour me gratter le ciboulot, pas pour gagner à Street Fighter, ce dont je me suis incapable. Donc peut-être que c'est ça qui joue aussi dans mon appréciation du système de combat, que j'aime bien, qui est dynamique en soi, j'ai des bons souvenirs des combats, surtout à la fin contre les boss, où ouais, je devais enchaîner les bonnes attaques de couleur pour pouvoir faire une grosse attaque et pouvoir enlever beaucoup de points de vie d'un coup, et en plus la gestion de ressources dont j'ai parlé, du coup... S'ajouter à ça, je devais faire gaffe, j'avais pas assez de points de magie. Je devais aussi, avant le combat, faire attention aux capacités que j'activais parce que ça pouvait me sauver la mise. D'avoir pu activer une capacité importante de défense ou de points de vie en plus, ou etc. Ou de pouvoir récupérer des points de magie si je faisais tant de combos, etc. Donc ça, c'était bien, il y avait de la réflexion. Mais au final, le problème, je pense, c'est que c'est pas ce que j'attends d'un JRPG. Moi, je veux des combats où je réfléchis. Je vous ai parlé du flow mental et... C'est ça en fait, ça ne me met pas dans un flow mental que de devoir faire preuve de skill, de talent, de faire attention aux mouvements que je fais avec mes doigts. Parce que du coup, bah, je suis pas en train de construire une stratégie, je suis en train d'essayer de l'exécuter. Et c'est pas ce que je veux faire dans un JRPG. Comme je vous l'ai dit, je veux sauver le monde en fumant ma clope. Là, impossible. Là, je dois faire gaffe, essayer de penser. Ok, attends, mon attaque spéciale bleue, je dois faire B plus O, c'est ça? Ah non, je confonds, en fait, fallait faire le joystick droit parce que tu dois, en fait, gérer les raccourcis pour avoir accès à tes coups spéciaux. T'en as 8, du coup, raccourcis. Et du coup, tu dois choisir avant le combat ou pendant le combat, si tu veux, quel raccourci correspond à telle attaque spéciale. Et du coup, j'arrêtais pas de m'emmêler les pinceaux, de pas faire les bonnes attaques. Et c'est pas agréable, en fait. J'étais pas en train de réfléchir à ma stratégie, j'étais en train d'essayer de l'appliquer et de pas faire n'importe quoi. Donc c'est pas ce que j'attends d'un JRPG, même si le système de combat est très bon, très dynamique, très agréable, c'est un très bon jeu d'action en soi. Mais du coup, pour moi, dans un JRPG, ça a pas trop sa place parce que ça me permet pas d'être dans ce flow mental. Et là, on arrive un peu à un point qui me semble important, parce que cette histoire de flow mental que je rabâche, bah c'est un mot qui est moche. Et du coup, j'ai inventé un mot. Alors vous allez me dire, mais Stavro, t'as déjà inventé le mot officiel ? Il est super. C'est vrai, vous avez raison, merci. Officiel. Deuxième épisode officiel du podcast Niveau Supérieur. Big up. Mais là, j'ai inventé un mot dont je suis très fier, donc attention, et me le volez pas, bien sûr. Hein. Ouais, vous savez, c'est la règle Mimimati. On l'a entendu ici, on sait d'où ça vient. Mais du coup, plutôt que de dire flow mental, je pense qu'on peut parler de contemplation ou d'état contemplatif. C'est-à-dire un état dans lequel un JRPG te met quand t'es un peu mou, tu réfléchis, t'es contemplatif du coup, mais en même temps, ton esprit est en train de réfléchir, de faire des stratégies, d'être actif du coup, contemplatif. Et les combats de JRPG, pour moi, ils doivent te procurer ça. En tout cas, jusqu'ici, c'est ce que j'ai apprécié dans ce que j'ai fait. Et là, tu dois plus être actif plutôt que contemplatif. Et du coup, ça prend trop de place, l'action, l'exécution, pour pouvoir vraiment être contemplatif, qui pour moi est le meilleur état possible pour un JRPG. Donc en fait, j'aime bien le système de combat, mais pas pour un JRPG. Voilà, tout simplement. Cette histoire de contemplation, je pense qu'on peut la retrouver ailleurs que dans les combats, parce que j'ai pas du tout parlé des graphismes ni de la direction artistique de ce jeu, alors que Tales of est réputé pour ça, parce que du coup, il y a des character designers qui viennent du manga et de l'anime. Là, pour Vesperia, c'est Kosuke Fujishima, si je ne me trompe pas, qui est au character design, et c'est un mangaka qui a travaillé sur Ah My Goddess, que je ne connais pas du tout. Mais du coup, on est vraiment dans un style animé. Le jeu Vesperia, il est en cel shading, donc c'est un type de graphisme 3D qui reproduisent un peu une sorte de côté animé. Si vous connaissez Zelda Wind Waker, par exemple, c'est du cel shading. Donc là aussi, on est en cel shading. Passons outre le lissage de la version HD remasterisée, qui est un peu bizarre, mais bon, c'est pas, tant pis, c'est pas de leur faute, c'est juste pour leur sortir et que ce soit pas moche sur nos grosses télé actuelles. Mais du coup, ce cel shading, ce character design animé, pourquoi je vous parle de ça par rapport à la contemplation, c'est qu'en fait, c'est le bordel. C'est-à-dire que il y a le moteur du jeu qui est du cel shading. Donc certaines scènes de dialogue sont dans ce moteur de cel-shading. Ok. Il y a les skits, les scénettes, les scènes optionnelles, qui, elles, sont entre deux dessins 2D qui parlent, en avatar, des petits carrés, quoi, juste avec le visage. Ok. Mais il y a aussi des scènes cinématiques précalculées, donc avec le moteur du jeu, mais qui ne sont pas dans le jeu, qui sont un peu faites avant, quoi, c'est un peu de la 3D précalculée, donc c'est un peu plus joli que ce qu'on a dans le jeu, parce que c'est pas en temps réel, mais ça reste moche, parce que bah, c'est à 10 ans, et que parfois les explosions, mon Dieu, quelle horreur. On sent vraiment, c'est vraiment, même pour de la 360, c'est parfois très moche. Et en plus de ça, on a aussi un quatrième type de scènes qui peuvent se passer, c'est des scènes purement animées, qui sont grave stylées, grave classe, c'est un très bon studio d'animation qui fait les scènes d'animé. Du coup, on a quatre façons de raconter l'histoire différentes. Et dans les JRPG, on a souvent ça. Je vous ai dit, les combats dans les JRPG, il y a des transitions entre l'exploration et les combats. Et parfois, si dans les JRPG, on a des scènes cinématiques en 3D, et parfois des bouts de dialogue en 2D, ou parfois des bouts de dialogue avec le moteur du jeu, et après une cinématique vachement plus belle. Et on est censé, nous, dans notre esprit, faire le lien entre tout ça. Et c'est l'esprit du joueur qui est censé être actif et être capable de tout mélanger et de tout unifier pour que ça fasse une expérience et une histoire et une narration cohérente. Du coup, les JRPG de base nous demandent beaucoup de nous-mêmes et nous demandent un état contemplatif pour qu'on puisse être justement capable, je ne dis pas que c'est très compliqué comme effort, mais c'est quand même un effort mental certain, que de prendre différentes façons de nous raconter des histoires, des scènes qui parfois dans les graphismes et dans la façon de faire n'ont rien à voir, et de dire ok, tout ça va ensemble, tout ça suit le même fil narratif. Du coup, les JRPG attendent de nous autant le plus basique que le plus complexe, un état contemplatif où on doit être acteur et en même temps mou. On doit réfléchir, mais ne pas être en train de marteler des touches. Juste notre esprit travaille pour bien ficeler tous les différents modes de narration qu'on nous propose. Et du coup, ce jeu-là, avec toute cette sorte de scène différente qu'il nous propose, il nous demande d'être contemplateur. Et là, contrairement à un JRPG comme Dragon Quest, où il y a un système de combat au tour par tour qui nous permet de rester mou, le système de combat nous demande d'être hyperactif d'un seul coup et d'être super fort au jeu de combat et de faire des guard cancel et des combos et des manigances, quoi. Donc c'est pour ça que ça me dérange et que c'est pas ce que je veux dans un JRPG. Si je dois être contemplateur, réfléchir, comprendre l'histoire, unifier parfois des modes de narration qui sont différents, le système de combat doit lui aussi être un peu mou et me laisser réfléchir et être stratégique. Et là, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que ça me saoule un petit peu d'avoir ce système de combat hyper actif, hyper dynamique, hyper bon au demeurant, mais qui pour moi n'est pas à sa place dans un JRPG. Voilà, je l'ai dit, c'est comme ça. Bon, vous doutez qu'on se dirige vers la fin du podcast, là, j'ai tout donné intellectuellement, j'ai plus rien. Mais quelques petits commentaires en l'air. Les musiques, j'en ai pas parlé, mais elles sont sympas. Elles sont, je trouve, génériques en fait. Elles sont pas mauvaises, elles sont pas désagréables, mais y a rien de spécial qui m'a marqué, quoi. J'aime bien le fait que vers la fin du jeu, il y a un nouveau thème de combat. Ça rajoute un peu de fraîcheur dans nos oreilles après 40 heures, mais y a rien qui m'ait vraiment tenu en haleine ou qui m'ait, ouais, comme je vous le dis, profondément marqué. Donc sympa. Mais j'ai rien à dire en fait. Un peu pareil pour les monstres, le bestiaire, que je trouve générique au possible, voire un peu nul en fait. Contrairement à Dragon Quest qui avait des monstres vachement rigolos et marquants et originaux, là, j'en ai pas retenu un seul, je pense. Et pour le caractère design, j'y reviens deux secondes, il est compétent, il est bien, je reconnais les personnages, ils sont bien faits dans leur design, mais en fait, là aussi, je trouve ça générique en fait. J'ai l'impression, quand je regarde le design des personnages, d'avoir cliqué au pif sur un animé en allant sur un site de streaming en 2012, en disant « Tiens, c'est quoi cet animé? Ça parle de fantasy, vas-y, j'essaye. » Et là, c'est l'impression que ça me fait avec le style graphique, qui est compétent, qui est bien, qui est beau, mais qui n'a pas de patte, qui n'a pas d'âme, je trouve. Donc voilà, c'est mon avis. Et il n'est peut-être pas spécialement malin, parce que là, c'est juste des opinions, j'ai pas d'arguments, mais bon, c'est comme ça. Écoutez, je vous l'ai dit, j'ai tout donné, je suis rincé, je suis vidé. Et tout ce que je dis sur le côté générique, c'est peut-être pour ça qu'on peut dire que Tales of, ça, c'est une série B. Au début, je parlais de Action RPG, de RPG Action. Là, on pourrait parler aussi d'un RPG Action parce que ce serait une sous-marque qu'on a achetée au magasin Action. Mais bon, après, on risquerait de s'y perdre dans les catégories, donc on va éviter, mais on pourrait peut-être le dire. Ceci étant dit, ça n'empêche pas que les séries B, c'est bien, en fait. Je sais que dans les cinémas, dans les séries, j'aime bien consommer des œuvres qui ne sont pas jugées parfaites de bout en bout, parce que déjà, parfois, quand c'est parfait, bah, c'est chiant. Ça peut être pompeux, ça peut être lourd, ça peut demander beaucoup d'attention. Et quand c'est des séries B, des trucs un peu moins bien faits, un peu moyens, bah déjà ça peut nous parler quand même. Et puis, on peut voir les problèmes et dire « Ah, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais préféré ci, etc. » Ça nous fait plus réfléchir en fait parfois. Et là, effectivement, ça m'a permis de me situer moi et de voir ce que j'attendais d'un JRPG. Du coup, c'était bien de faire ce truc-là, même si ça peut être un peu générique sur certains aspects. Du coup, pour répondre aux questions que j'ai posées au départ, est-ce que Tales of c'était un bon jeu à faire en 2008 ? Oui, bien sûr. D'autant plus que c'était un moment bizarre pour le jeu vidéo japonais, et que ce jeu, il montre que clairement, ils avaient encore des choses à dire, même à l'époque, en fait. Pas parce que c'est pas sur Unreal Engine, et que ça a pas des moyens de ouf, que ça a pas des trucs à raconter. Je pense que dans Tales of Vesperia, il y a autant de contenu, et de propos, et de réflexions, que dans un Gears of War, où, ok, pour être plus honnête et prendre un RPG, que dans un Witcher, en fait. Je pense pas que on dise plus de choses dans Witcher 1, qui sort à l'époque, hein, je crois, vers 2008-2009, que dans un Tales of Vesperia, en fait, le conflit entre Flynn et Yuri sur la justice, il est tout aussi intéressant que ce que peut nous raconter les aventures de Geralt dans The Witcher 1. Voilà, jetez-moi des pierres si vous voulez, mais je crois que c'est le cas. Même si j'ai pas trop The Witcher en tête, sympa que ce soit beaucoup plus malin. Si on se réfère à la série The Witcher, c'est forcément moins malin, parce que j'en profite pour le dire, j'ai regardé un quart d'heure de cette série, j'ai explosé de rire et j'ai arrêté à tout jamais. C'est un des plus gros nanars qui m'était donné de voir en seulement 15 minutes. Du coup, je suis déjà bien sympa de parler des jeux et pas de ce qu'ils ont décidé de faire après. À côté, l'anime Tales of Vesperia dont je parlais, qui s'appelle Tales of Vesperia First Strike, c'est du grand art. C'est Méliès revenu à la vie qui a fait un anime, quoi. Au petit jeu des comparaisons, tel est prix qu'il croyait prendre. Hein ? Depuis qu'il est sur Netflix, Geralt est à la dérive. Voilà. Et est-ce que c'est un jeu à faire aujourd'hui ? dans sa version remasterisée. Bah ouais, comme je vous le dis, je pense que oui, parce que c'est un truc bis, qui peut du coup être intéressant pour se situer, pour voir les problèmes, et parce que c'est un modèle de JRPG assez étonnant, de par son système de combat, et parce qu'il fait des trucs hyper bien, autant au niveau du rythme que des personnages, que très peu de JRPG font. Dragon Quest, je pense que c'est un meilleur jeu globalement, mais les personnages sont beaucoup moins bien traités, et le rythme est un peu moins bien géré, je pense aussi. Du coup, voilà, il a ses forces. Le rythme, les personnages. Le système de combat, il est très bon abstraitement, mais je trouve pas qu'il soit bon dans l'expérience et dans le rythme, justement, que doit avoir, selon moi, selon mes préférences et selon ce que j'attends dans un JRPG. Mais ouais, c'est à faire, clairement. En fait, pour essayer de faire une métaphore, comme j'ai fait l'autre fois, bon, je parlais de Dragon Quest comme d'un vieux boulanger doué, mais beauf, je pense que Tales of Vesperia, pour le coup, ce serait une sorte de petit restaurateur qui est sur la place du village. Il a une façade qui paye pas de mine, avec des imprimés un peu génériques qu'on voit dans tous les restaurants. Il n'y a pas dessus écrit « meilleur restaurant selon le guide Michelin du tourisme de 2009 ». Mais on rentre, et c'est un endroit qui est agréable, qui est chaleureux, où le tenancier est très sympathique. Et la carte de menu, elle est très généreuse, ça foisonne, il y a plein de trucs, il y a plein de plats. Le problème, c'est que quand vous voulez prendre un menu, et pas faire un truc à la carte, les menus, ils sont pas bien faits. Genre, il y a 2-3 entrées que vous aimez bien, 2-3 plats qui sont pas mauvais, mais les desserts, ils ont rien à voir avec le reste. Et du coup, vous êtes toujours un peu frustré parce que vous aimez bien cet endroit. C'est une bonne cuisine familiale, pas fancy, pas de luxe, quoi, mais bonne. Sauf que la façon de faire le menu, bah, elle vous embête parce que le dessert, c'est pas ce que vous attendiez, quoi, à la fin. Ça reste un peu sur le bide parce que après tel plat et telle entrée, il fallait un dessert qui n'est pas dans le menu. Vous pourriez prendre à la carte, mais bon, bah c'est chiant, vous avez pris un menu, donc bah voilà. Donc je pense à sa Tales of Vesperia. Un restaurateur bien sympathique qui ne sait pas faire de menu cohérent. Voilà, et oui. À chaque fois, une petite métaphore pour les jeux. Comme ça, à la fin, on aura une sorte de grand village du JRPG, où on pourra se repérer, on pourra faire une petite carte. Un peu comme les tapis qu'on avait quand on était gamin, là, plein de couleurs, avec les routes et tout. Mais avec chacun des jeux qu'on aura fait. Et ce sera super. C'est la fin, ça y est, du coup, du deuxième épisode. Oui, j'ai même plus de voix, là, j'ai la voix cassée, fatiguée. Mais bon, on y est arrivé, je pense avoir dit des trucs intéressants, j'espère que ça vous a plu. J'enregistre les épisodes à l'avance, vous vous en doutez, parce que bah, j'ai pas 100 heures dans le mois, même si là, ça m'en a pris que 50, pour jouer à un jeu dans le mois et vous le donner en flux tendu. Du coup, j'enregistre l'épisode aujourd'hui où je viens de lancer le podcast seulement, de mettre l'épisode 0 en ligne, d'avoir quelques premiers retours et tout. Du coup là ce sera 2 mois plus tard quand ça sortira, j'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à me le dire, soit sur Twitter @niveausup, soit par mail, l'adresse c'est podcast.niveausupérieur@gmail.com. donc n'hésitez pas à me contacter, à me faire vos remarques, à poser vos questions, à donner vos avis. Si il y a des trucs intéressants qui ressortent de ce que vous me dites, bah, je peux très bien faire un épisode entre les deux en fait. Même si je les enregistre à l'avance, je peux très bien sortir un épisode de plus pour rebondir sur un truc et tout. J'ai le droit, je fais ce que je veux, c'est mon flux de podcast, c'est mon flux RSS. Du coup, voilà. Ça peut être un peu interactif et 2.0, même si c'est enregistré 2 mois avant, quoi. Il n'y a pas de souci. Du coup, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Je me sentirai moins seul à parler devant mon micro, même si c'est un plaisir, encore une fois. Je suis très content, pour l'instant, de jouer à plein de JRPG, d'essayer de réfléchir dessus. C'est cool, et j'espère que c'est cool pour vous aussi. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que bon, bah, c'est un sujet de niche, hein, je vous l'ai déjà dit. On n'est pas tant que ça à vouloir écouter un mec parler 40 minutes d'un jeu de rôle japonais. Du coup, ben, si vous en connaissez qui aiment bien, proposez-leur. On se sentira moins seul. Je me sentirai moins seul. Et puis, ben, en attendant, mettez 5 étoiles. Ah oui, aussi, c'est ça. Mettez 5 étoiles. Et puis, ouais, lâchez des likes, des RT, des tout ça, quoi. C'est la fin du monde, ça y est, j'ai plus de voix, faut que j'arrête. Du coup, le mois prochain, on jouera à Super Mario RPG, la légende des 7 étoiles, c'est Super Mario RPG Legend of the 7 Stars. Et du coup voilà, Super Mario RPG c'est 96, Super Nintendo, va faire un jeu un peu plus vieux parce que bon, il est peut-être temps de ne pas faire que des jeux de récents, quoi, entre guillemets, en 3D et tout. Revenons à la base. Du coup, vous pouvez prendre vos petites manettes et jouer et être prêt pour le mois après cet épisode pour avoir vous aussi vos petites opinions, vos petits arguments. On pourra les confronter. Et voilà, on se retrouve le mois prochain. Et en attendant, n'oubliez pas de faire de votre maximum dans la vie comme dans les jeux pour passer au niveau supérieur. Et bisous à tous les cristaux, bien sûr.